fusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission du samedi avec trois rubriques aujourd'hui, la culture, la littérature et les langues. Une émission présentée aujourd'hui par Anna Kubishta. Aujourd'hui dans Culture sans frontières, il sera question de bande dessinée. La 6e édition du festival Comics Fest s'est terminée le 5 novembre dernier à Prague. En République tchèque, ce support est de plus en plus prisé, même les Tchèques sont encore très loin des 4000 titres publiés annuellement en France. Ici, les maisons d'édition publient environ 150 albums par an, dont une quinzaine de BD d'auteurs tchèques. Cette année, Comics Fest a accueilli deux auteurs et dessinateurs francophones, Pascal Rabaté et Frédéric Peters. Magdalena Rosinkova les a invités dans Culture sans frontières.
Culture sans frontières. Magdalena Rosinkova.
Bonjour, l'auteur, dessinateur et cinéaste français Pascal Rabaté est venu au festival Comics Fest à l'occasion de la parution en tchèque de l'intégrale de son œuvre majeure, la BD Ibicus, en tchèque aux éditions Mott. Pour Ibicus, dont nous avons déjà parlé à l'antenne, Pascal Rabaté s'est inspiré du roman éponyme d'Alexis Tolstoï sur les déboires d'un personnage médiocre, d'un escroc, pendant la Révolution russe. Au micro de Radio Prague, Pascal Rabaté a expliqué comment il crée ses histoires. Si le dessin lui venait en premier.
Oh, ça vient tout en même temps, en fait. Je suis obligé de canaliser sur la narration, c'est-à-dire de savoir ce que je vais raconter dans mon récit, mais tout vient en même temps, c'est-à-dire que je vais dessiner, puis je vais quand même, je pense que j'écris classiquement, on va écrire les dialogues de toute manière en amont, enfin en aval, je veux dire, c'est vraiment au tout départ. Et après, je dessine. Il faut que je sache où je vais mettre ma bulle de texte, parce que ça induit aussi le sens de lecture. Mais après, ça se retravaille. On s'aperçoit qu'il faut enluminer un petit peu, virer des mots, retoucher un peu pour coller au plus juste à l'expression et à ce que veulent dire les mots.
Vous êtes venu à la bande dessinée par la gravure. Vous étiez depuis toujours fasciné uniquement par le dessin depuis votre enfance?
Je suis venu pas forcément par la gravure, c'est-à-dire que la gravure a compensé le fait que je pouvais pas faire de bande dessinée dans les institutions à l'époque. La bande dessinée n'était pas déconsidérée, elle était tout simplement pas considérée du tout dans les établissements artistiques. Et du coup, quand je suis rentré aux Beaux-Arts en espérant faire m'initier au support, on m'a dit que si je voulais rester dans les murs, il valait mieux que j'oublie un peu ce médium pour attarder et que je m'intéresse à autre chose. Donc ça a été une très bonne chose. J'ai découvert la vidéo, le cinéma, j'ai découvert la gravure, mais j'ai dessiné avant d'écrire. C'était mon moyen d'expression, c'était a priori la seule façon de canaliser une énergie débordante, dixit mes parents. Et donc j'ai dessiné, j'ai pris du plaisir à la lecture par des bandes dessinées comme Les Pieds Nickelés en France ou des revues comme Pif ou Mickey ou encore Tintin. Et c'est vrai que j'ai, à partir de 12 ou 13 ans, le fait de raconter des histoires en dessin commençait beaucoup à me travailler. Et puis après, une fois sorti de l'école des Beaux-Arts, où je me suis un peu ouvert sur d'autres supports, sur d'autres manières de s'exprimer, sur des courants artistiques, sur des manières d'appréhender le dessin autrement qu'avec des gros nez, je suis revenu naturellement à ce support, quoi.
En République tchèque, on commence toujours à découvrir, je dirais, la bande dessinée par rapport à la France. Il y a encore du chemin à parcourir. Mais je pense que ces 10 dernières années, la situation s'est quand même beaucoup améliorée. Mais quand même, pensez-vous qu'il y a des pays où la bande dessinée n'est pas tellement ancrée dans la culture nationale pour des raisons
X ou Y, diverses. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai voyagé un peu de par le monde, justement, puis j'ai regardé un peu ce qui se passait, et c'est très étonnant, parce qu'en effet, en Angleterre, par exemple, le support est pratiquement inexistant. Il y a les comics qui arrivent, mais je suis pas sûr que ça marche beaucoup en Angleterre. Par contre, il y a une tradition d'illustrateurs qui est assez phénoménale. Ils ont des Tony Ross, des Quentin Black, enfin des choses assez merveilleuses qui se font dans le domaine de l'illustration, mais de l'illustration pour enfants. Et en Afrique du Sud, c'est pareil. Il y avait une bande dessinée qui existait, mais elle était underground, complètement. Quand en Russie, ben c'est pareil, elle démarre juste. Je crois qu'ils en sont à leur 5e ou 6e édition de festival en Russie. Et il doit y avoir une ou deux maisons d'édition qui commencent à exister, à distribuer un peu les choses. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pays. Et c'est vrai qu'il y a vraiment trois pôles. Il y a le pôle manga au Japon, il y a le pôle comics aux États-Unis et il y a la bande dessinée européenne. Mais la bande dessinée européenne, elle est essentiellement franco-belge. C'est-à-dire que des auteurs comme Matotti, qui sont considérés comme des auteurs majeurs en France, c'est un auteur italien. Quand il a fait Stigmate, qui a été primé à Angoulême, le scénariste était italien, ne parlait pas français, et quand il est d'abord paru en France, les Italiens ont racheté les droits. Donc c'est dire si même dans les pays frontaliers, la bande dessinée existe en Italie, mais est beaucoup moins forte et beaucoup moins représentée qu'en France. C'est un vrai marché, il y a une diversité de création, que ça aille dans le domaine commercial ou dans le domaine de la recherche ou de la bande dessinée d'auteur. On a des bandes dessinées, des romans graphiques, des BD de 200, 300 ou 400 pages, comme on a des albums de 46 pages, comme ça se faisait dans les années 50. Mais c'est vrai que ça, j'ai l'impression en effet que ça s'exporte. Enfin, que le support existe, mais vraiment, c'est un épiphénomène en Russie, vraiment tout petit. Ici, ça démarre, mais je pense que ça démarrera plus vite ici que, par exemple, en Russie. Parce qu'il y a déjà eu de la bande dessinée avant. Parce que même si elle a été pour les enfants, il y a toujours cette éducation au support. Et je pense qu'il faut une génération pour qu'il y ait des gens qui commencent à s'interroger et à savoir lire un album.
Parce qu'il faut savoir lire
un album. J'espère que on travaille tous les auteurs travaillent pour que ça puisse passer dans toutes les mains. Mais après, il y a une habitude de lecture qui fait que les gens vont être rebutés, vont penser que c'est difficile. Et il faut réussir à passer cette barrière.
Originaire de Genève, Frédéric Peters, 37 ans, est connu du public tchèque et international, notamment grâce à sa BD Pilule Bleue, un récit autobiographique sur sa vie avec une jeune femme séropositive et son petit garçon, lui aussi atteint du sida. Frédéric Peters a assisté à la clôture du Comics Fest de Prague. Jean-Sébastien Létan l'a rencontré.
C'est mon éditeur tchèque qui m'a invité. Et je dois dire, assez surpris, parce que d'habitude dans les pays de l'Est, on lit très peu de bandes dessinées, donc je me disais qu'il n'y aurait personne et qu'il ne se passerait pas grand-chose, avec plaisir hein, néanmoins. Mais... Et en fait, il y a plein de monde, il se passe plein de choses, et les gens sont super. Voilà. Non, je regrette presque d'en être venu que 2 jours, j'aurais presque pu passer 1 ou 2 jours de plus, ouais.
D'accord, et donc j'ai vu à la boutique que 2 de vos livres sont traduits en tchèque. Ouais. Donc Lupus et les pilules bleues, donc Modeli Pilulki. Alors comment ça se fait que, déjà en combien de langues vous êtes traduit à l'étranger et comment ça s'est passé votre traduction en tchèque? Quelle édition vous a demandé et qui a supervisé le travail, etc. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire tout ça?
Alors, mon livre le plus traduit c'est Pilules bleues et j'ai jamais compté non plus, mais il doit y avoir... 8 traductions, je pense, 8 langues différentes, quelque chose comme ça. Et c'est très simple, l'éditeur contacte mon éditeur de base en Suisse ou en France, suivant lequel c'est, et achète les droits, se charge de la traduction, et puis on est obligé de lui faire confiance parce qu'on ne comprend pas le tchèque, donc on espère qu'il va bien traduire. Et voilà. La bande dessinée est un petit milieu... où les choses sont assez simples.
D'accord, et donc pendant la conférence, on a beaucoup parlé de votre investissement personnel dans la bande dessinée, puisque La Bulle Bleue est largement autobiographique. Alors comment est-ce que vous vous investissez dans la bande dessinée? Quelle part de vous vous y mettez? Est-ce que vous faites plutôt des choses autobiographiques?
Non, j'ai fait un livre autobiographique qui était Pilule Bleue, mais ça c'était il y a 10 ans. Et autrement, ben oui, on a beaucoup parlé de l'implication de l'auteur, mais ça ne s'applique pas qu'à moi, ça s'applique à n'importe qui écrit des livres ou fait de la bande dessinée, enfin il me semble. En tout cas celle qui m'intéresse, c'est-à-dire de non pas faire de l'autobiographie, mais de se servir de la matière humaine qui nous entoure directement pour essayer de nourrir un récit qui lui doit être basé sur une idée, un scénario, une construction, un rythme. Mais il faut donner vie à des personnages, les rendre un peu compliqués pour que le lecteur s'identifie, se pose des questions, et pas l'impression qu'on se fout de lui, quoi. Donc j'essaye de mettre mes questionnements sur la vie, l'amour, la mort dans mes livres et d'en nourrir les personnages.
Comment est-ce que vous travaillez plus spécifiquement? Est-ce que tout est prévu à l'avance, les scénarios, vous travaillez un peu au jour le jour?
Non, moi j'ai la particularité de travailler en improvisation totale. C'est-à-dire que je n'écris pas de scénario avant. Par contre, je construis une trame mentale où je fais un plan. Mais je n'écris jamais le scénario à l'avance. C'est-à-dire qu'après, les choses se font au fur et à mesure. Et souvent, d'ailleurs, comme la bande dessinée, ça prend beaucoup de temps à se faire. Un an pour un livre, un gros livre. Il arrive que la vie et les événements du quotidien modifient le cours de l'histoire. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de pas m'ennuyer, de pas rester figé et de laisser l'histoire ouverte aux événements extérieurs. De la vraie vie, quoi.
Quels sont les auteurs de bande dessinée qui vous ont le plus inspiré, qui vous ont peut-être donné envie de faire de la bande dessinée? Quelles sont vos influences dans le milieu?
J'ai une trilogie de base qui est Hergé avec Tintin quand j'étais enfant, où j'ai tout lu des dizaines de fois et je connais tout par cœur. Ensuite, j'ai eu deux révolutions à l'adolescence. C'était Otomo avec Akira, qui a donné un film ensuite, donc c'est du manga ça. Et Moebius, parce que c'est le Jean Giraud, Moebius, c'est le meilleur dessinateur vivant, donc voilà. Et puis j'aime beaucoup les Peanuts aussi, Snoopy et Charlie Brown, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais ça.
D'accord, et qu'est-ce que vous pensez du milieu et du marché de la bande dessinée actuelle, notamment la bande dessinée franco-belge? Qu'est-ce que, selon vous, quel en est l'état?
Alors moi, je n'en pense rien. Ça, il faut demander ça aux commerciaux et aux éditeurs. Moi, j'essaye de faire les histoires les plus intéressantes et fines possibles. Voilà, moi, ce qui me plaît, c'est de continuer à trouver le plaisir que j'avais quand j'étais enfant et que je dessinais pendant des heures. Et si je pouvais faire ça jusqu'à la fin de mes jours, ça m'arrangerait, ouais.
Dans le Tchèque du bout de la langue aujourd'hui, Guillaume Narguet va vous parler notamment de corruption, un sujet, vous le savez, qui est très présent dans l'actualité tchèque. On témoigne la dernière démission d'un ministre du gouvernement de coalition soupçonné de corruption.
Le Tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem, milovníkům češtiny Radia Praha.
L'actualité tchèque ces dernières semaines a été marquée par de nombreuses affaires de corruption et autres fraudes financières. Rien que sur Radio Prague, depuis la mi-octobre, nous avons ainsi évoqué la démission du ministre du Commerce et de l'Industrie, la privatisation de la société minière de Most, le controversé super appel d'offres écologique ou encore l'achat de grâces présidentielles. On le constate, malgré la prétendue volonté du gouvernement de lutter contre, la corruption et les escroqueries en tout genre restent monnaie courante en République tchèque. omniprésente, fraude et corruption le sont depuis au moins une vingtaine d'années et les grands changements politiques et économiques. Un fléau qui touche donc de nombreux niveaux de la vie publique et du monde des affaires en République tchèque, mais qui a également une influence sur la langue tchèque. L'invention du mot
« tunelovat »
en lien direct avec le mot
« tunel »
tunnel en est la confirmation. C'est donc à ce phénomène que nous allons nous intéresser pour cette fois. Nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises dans cette rubrique, quelques mots tirant leur origine de la langue tchèque sont passés dans le langage courant international. Il s'agit plus précisément de robot, polka, dollar, pistolet ou même encore obus, autant de mots que l'on retrouve aujourd'hui dans la langue française. Le cas du mot
tunnel.
Tunnel est lui bien différent. D'abord, concernant son étymologie, il ne possède aucune origine tchèque. Comme en français, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien ou même encore en turc, le mot tchèque est emprunté de l'anglais
tunnel.
Plus exactement, il est issu du moyen anglais
tunnel,
littéralement un filet tubulaire, lui-même issu de l'ancien français tonnel. Son sens premier, comme on le conçoit partout dans le monde, est une voie ou une galerie de communication souterraine percée à travers ou sous quelque chose, à travers une montagne, une colline ou sous une rivière ou même la mer. En tchèque, le mot
« tunnel »
possède donc ce sens premier. Rien de très surprenant jusque-là, mais il possède également un sens très particulier, propre à la langue tchèque, et c'est bien entendu surtout ce sens-là qui nous intéresse. En tchèque donc, un
« tunnel »
peut également désigner une fraude, une escroquerie, concrètement un moyen illégal de transférer, détourner de l'argent appartenant à une société, à une banque ou se trouvant sur un fonds financier vers un compte bancaire privé d'une personne physique. Pour désigner cette opération réalisée par un
tunnelage,
un escroc financier donc, il existe également le verbe
tunnelovat,
apparu dans les médias tchèques vers le milieu des années 1990, soit en pleine période de privatisation. Un peu paradoxalement, même si nous connaissons bien ce mot tunnel, le verbe
tunnelovat
est difficilement traduisible en français. Il ne serait sans doute pas question, dans le cas présent de fraude financière, de creuser ou de percer un tunnel. Il faudrait donc là aussi inventer un nouveau mot qui pourrait être par exemple « tunnelé », dont la conjugaison ne serait toutefois ni très belle ni très pratique. Notons cependant, et c'est là une précision importante, que la langue anglaise, à elle, trouve un équivalent au mot tchèque
« tunnelování »,
c'est-à-dire l'action qui consiste à
« tunnelovat »
ou « tunnelé » avec
« tunneling »,
un terme apparu vers l'an 2000, là aussi semble-t-il pour la première fois dans deux magazines économiques spécialisés. Précisons encore que les auteurs des articles n'avaient alors pas oublié de rendre à César ce qui appartient à César et de mentionner que ce nouveau mot
« tunneling »
tirait son origine du tchèque. Au moins depuis, les Tchèques, même si la majorité d'entre eux n'en est pas particulièrement fière, peuvent se targuer d'avoir donné un nouveau mot au monde. Bien entendu, on peut également se poser la question légitime de savoir pourquoi les Tchèques font référence au tunnel pour désigner ces transactions financières frauduleuses. Ici, l'explication est relativement simple. Tandis que l'on évoque souvent la transparence lorsque l'on parle de lutte contre la corruption pour qualifier une gestion ou le fait de ne pas dissimuler ses activités ou ses revenus, le tunnel, lui, inversement, évoque l'idée d'obscurité, de trou noir. Or, les opérations frauduleuses sont réussies lorsqu'elles se font dans le secret, un peu comme pour les voleurs qui opèrent la nuit pour ne pas être vus. Et malheureusement, force est de constater, à la lumière de l'actualité, qu'en ce qui concerne la corruption et les fraudes financières et fiscales en tout genre, les Tchèques ne voient pas encore le bout du tunnel. C'est donc sur ce constat que s'achève ce tchèque du bout de la langue, en attendant de nous retrouver dans 15 jours pour découvrir d'autres curiosités et richesses de la langue tchèque, richesses entre guillemets que nous ne tunnelerons pas, portez-vous du mieux possible. Portez le soleil en vous. Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Et puis pour finir, on passe à la littérature. Toute une série de manifestations, expositions, débats et colloques sont organisés ces jours-ci à l'occasion du bicentenaire de la naissance du poète Karel Jaromír Erben. Le poète est né le 7 novembre 1811 dans le village de Miletín, au pied des Monts des Géants. Václav Richter évoquera pour vous l'œuvre et la vie de ce personnage emblématique de la littérature tchèque de la première moitié du 19e siècle.
Rencontre littéraire. Il y a peu de Tchèques qui ne connaissent pas par cœur au moins quelques vers de Karel Jaromír Erben. Comment se fait-il que ce poète du XIXe siècle reste tellement populaire, tellement présent dans la culture tchèque encore aujourd'hui? Comment se fait-il qu'il ait inspiré au cours des derniers siècles tant d'écrivains, de musiciens, de peintres et de cinéastes? Telles sont les questions que se posent les historiens de la littérature, notamment ces jours-ci, alors que nous fêtons le bicentenaire de sa naissance. Poète, prosateur, folkloriste et linguiste, Karel Jaromír Erben est un des principaux artisans de la renaissance littéraire tchèque du XIXe siècle. Bien que ses propres œuvres soient relativement peu nombreuses, l'ampleur des activités de cet homme à la santé fragile, qui a vécu de 1811 à 1870, est énorme. Attirer l'attention du public sur l'étendue des activités de l'écrivain était l'un des objectifs de l'exposition préparée par le Musée de la littérature tchèque et présentée actuellement à la Bibliothèque nationale. L'ambition de la commissaire de l'exposition, Dorota Labusová, a été de mettre en relief les aspects moins connus de la personnalité du poète.
Nous voulions évoquer tous les aspects de sa vie et de son œuvre car nous supposions que la majorité des gens se rappelaient encore de ce qu'ils avaient appris à l'école sur sa création littéraire et poétique. Aujourd'hui, les gens ne savent pas cependant qu'il a été un collectionneur et un conservateur de littérature folklorique. Il a sauvé une grande quantité de chansons populaires que nous chantons aujourd'hui et que sans lui, nous ne chanterions probablement plus.
Tout cela n'explique pas cependant la pérennité de l'œuvre poétique de Karel Jaromír Erben. Daniel Dobiage de l'Institut de littérature de l'Académie des sciences tchèques cherche à expliquer le phénomène Erben par les qualités littéraires de sa poésie.
En premier lieu, c'est une littérature de qualité. Expliquer la notoriété d'Erben par d'autres raisons serait faux. Son talent littéraire était incontestable et il perfectionnait encore son style par ses lectures. Il étudiait la poésie et les contes populaires, ce qui lui a permis d'aiguiser sa sensibilité pour la langue. Il avait aussi un don pour la musique, il jouait du piano. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il a su choisir les genres littéraires qui allaient se répercuter dans l'évolution postérieure de la littérature tchèque.
Homme de nombreuses activités, Erben reste pourtant pour la postérité auteur d'une seule œuvre, d'un seul recueil de poésie. Ce livre, son œuvre majeure, est intitulé Kytice, un bouquet, et s'inspire des contes et légendes. Dorota Labusová insiste sur le rôle de la langue du peuple dans la gestation de ce livre.
Il est revenu à la langue du peuple, à la poésie du peuple, et c'était son inspiration. Cette inspiration n'a pas été que thématique. L'influence de la chanson populaire est décelable aussi dans son recueil Un bouquet. C'est la base de sa création. Il a puisé dans le fond.
Parmi les poètes tchèques de la première moitié du XIXe siècle, seul Karel Hynek Mácha peut égaler aujourd'hui par sa renommée posthume Karel Jaromír Erben. Dalibor Dobiaš rappelle que le poète s'est imposé dans la vie littéraire tchèque dès la moitié des années 1930.
Ses contemporains se sont certainement rendus compte qu'il s'agissait d'un auteur exceptionnel, et sa renommée a pris encore plus d'ampleur avec le temps. Il était apprécié en tant que poète, mais aussi en tant que folkloriste et collectionneur. Je pense que son recueil Un bouquet était perçu également un peu dans cette optique.
Byla trošku přijímána i touto optikou.
Avec une rare force d'évocation, dans une langue aussi poignante que mélodieuse, le poète magnifie les vieux contes et les transforme en chefs-d'œuvre de poésie. Les grands thèmes de ses poèmes, l'amour et la mort, la faute et l'expiation, les mystères du destin humain, n'ont rien perdu de leur intérêt et sont devenus la source d'inspiration pour une pléiade d'autres artistes. Les personnages de ces ballades, hommes et femmes, qui ne sont pas dépourvus de faiblesses humaines, sont parfois cruellement punis pour leurs fautes, pour leur naïveté, pour leur manque de sagesse. Tout le livre est dominé par l'idée de la justice supérieure qui pourrait être interprétée comme la preuve de l'existence de Dieu. Les êtres surnaturels et le monde des morts interviennent dans le monde des vivants et les scènes d'horreur racontées d'une façon extrêmement efficace contribuent à la fascination que le livre exerce sur ses lecteurs. C'est la forme de la ballade qui a permis à Erben de déployer son talent. Ce genre ancien a été illustré déjà au XVIIIe siècle par Goethe, auteur de la célèbre ballade « Erlkönig, le roi des zones ». La ballade s'inspirant de légendes et de mythes anciens était également chère aux écrivains romantiques. Un bouquet est un recueil de ballades, ce qui, selon Dalibor Dobiaš, pourrait expliquer en partie l'accueil chaleureux que le public lui a réservé.
Balada, jako takový starobylý, prostě.
La balade, genre ancien et national, semble revenir sur les aspirations morales du peuple des temps immémoriaux, jusqu'à l'époque d'Erben. Période d'oppression sous le régime policier instauré par le ministre de l'Intérieur, Alexander von Bach. L'œuvre d'Erben est cependant aussi un appel moral à ses contemporains, et les conflits de certains personnages de ses poèmes, comme ceux de la balade « La malédiction de la fille », reflète les problèmes très actuels de son époque.
Le style de Karel Jaromír Erben amené à la perfection justement dans ses ballades est un exemple de la concision. En quelques mots, le poète sait évoquer d'une façon magistrale la situation, les caractères, l'aspect et les aspirations de ses personnages. Sans volubilité, avec des termes précis et évocateurs, il sait créer en quelques vers tout un contexte poétique, peindre un paysage et subjuguer son lecteur. Le rythme, la rime et la musicalité de sa langue sont des instruments puissants qui lui permettent de traduire ses visions par les mots. Il va sans dire qu'une telle poésie est extrêmement difficile à traduire, voire intraduisible. Les lecteurs de poèmes d'Erben traduits dans les langues étrangères, y compris le français, ne lisent donc qu'un pâle reflet de cette poésie puissante et souveraine. L'autre facette de l'œuvre de Karel Jaromír Erben, qui reste vivant de 2 siècles après sa naissance, sont ses contes. Il a fait pour la littérature tchèque ce que Charles Perrault a fait pour la France, ou les frères Grimm pour l'Allemagne. Dorota Labusová insiste sur la valeur littéraire de ses contes.
Les textes de ces célèbres contes sont ses propres œuvres. Il recherchait les contes et les transcrivait. Dans nos archives, il y a une vingtaine de caisses pleines de contes auxquels il a donné forme écrite, qu'il a recueillis lui-même ou grâce à des amis et des membres de sa famille. Il en a créé tout un fichier des sujets différents. En écrivant les contes, il combinait différents sujets. Le résultat de son travail n'est pas donc une œuvre de folkloriste et de collectionneur dans le sens moderne du mot. Il a vraiment créé ses contes. Ce sont des œuvres originales.
Folkloristika a sběratelství v dnešním slova smyslu. On to prostě vytvořil, ty pohádky.
L'exposition de la Bibliothèque nationale démontre que Karel Jaromír Erben a également été co-auteur de la terminologie juridique tchèque, ainsi que chercheur, historien, éditeur, collectionneur, linguiste slavisant ou encore auteur de nombreux articles dans le grand dictionnaire encyclopédique Rieger. Erben excellait dans la plupart de ses activités, mais il restait l'homme de son époque. Ce n'est que grâce à sa poésie qu'il a survécu à sa mort. C'est grâce à ses ballades qu'il est notre contemporain.
Et c'est ainsi avec la littérature que se termine notre émission du samedi. Dimanche, retrouvez notre rubrique musicale hebdomadaire. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour notre programme habituel de la semaine. Bon vent, ahoy!
Radio Praga.